Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.
Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Barthès, c'est l'heure de Palabre en forêt. Aujourd'hui, un palabre un peu spécial, le PETR Charte Forestière, dont Margot et Virginie, les animatrices de cette émission, font partie, organisé le week-end du 12 et 13 mai, la fête de la forêt à Florac et à Bar-des-Cévennes. Nous y étions pour l'ouverture avec Radio Barthès pour une conférence de Jean-Michel Boissier suivie d'une table ronde. Comme il y avait beaucoup de diapos pendant la conférence, difficile d'en faire un objet radiophonique, mais elle est disponible sur notre site, sur le dernier numéro de Palabre en forêt. Ici, nous vous proposons de retrouver les discours des officiels suivis de la table ronde consacrée à la forêt. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue ici pour le lancement de cette fête de la forêt. C'est la fête de la forêt qui démarre. On est très très heureux. On est en direct sur Barthès sur le 107 FM. Un plaisir pour nous de lancer tout ça avec une table ronde absolument passionnante. On croise les doigts pour avoir le temps de parler de tout. La forêt, c'est un sujet large. Ça va être énorme pour en avoir déjà touché un mot avec deux trois spécialistes d'entre vous. Je sais que on va pas avoir le temps de tout aborder. S'il vous plaît, messieurs les spécialistes, on va y aller tranquille. Raccourcissez vos phrases, etc. Ce lancement de la soirée va être fait évidemment par les personnes qui ont organisé cette soirée, le PETR dans un instant, mais je laisse évidemment la parole à Flore Théron en qualité de maire de Florac ou en qualité de maire de Florac. Merci, on vous souhaite une bonne soirée, à tout à l'heure.
Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux. Effectivement, ce soir, je suis très très contente de vous accueillir. Donc j'interviens pour vous accueillir, pour vous souhaiter la bienvenue. Bon, mais je pense que tous vous connaissez nos lieux, notre environnement. Alors, nous sommes ici ce soir pour cette énième, c'est la combientième ? La première ? Mais alors, à Méruès, c'était quoi ? C'était l'avant-première, alors ? Hein ? Donc, pour la première fête de la forêt, alors je dois vous dire que je suis très contente, mais quand même un petit peu déçue, parce que le PETR a très très bien fait les choses. Ils avaient fait un appel à candidature pour auprès des communes qui aimeraient accueillir cette fête. Et Florac, ainsi que d'autres communes d'ailleurs, avaient soumissionné. Mais nous n'avons pas été retenus. Alors, j'adresse mes plus vives félicitations à mon camarade François Rouvérole, car c'est Bar qui a tenu la corde. Voilà, donc la fête, ce soir nous ouvrons ici à Florac, mais la fête c'est demain à Bar-des-Cévennes. Alors maintenant, après vous avoir souhaité une excellente soirée, j'espère que vous apprendrez plein de choses, parce qu'il y a peut-être des spécialistes, mais il y a sans doute des gens comme moi qui sont beaucoup moins spécialistes. Et donc j'espère apprendre beaucoup de choses, comme peut-être certains d'entre vous. Alors maintenant, je vais donner la parole à Daniel Barberio, qui est le président du PETR, et qui, en tant que tel, car vous l'avez entendu, on vous l'a bien indiqué, c'est le PETR, et plus spécialement le secteur du PETR qui a en charge Terra Rurale, qui a organisé cet événement. Et donc, il revient à Daniel de le présenter et de nous indiquer, disons, comment nous allons passer ces moments ensemble. À toi, Daniel.
Merci, Florent, et merci pour ton accueil. En préliminaire, donc... La photo, là, pour ceux qui connaissent pas, c'est Vialas. Je n'avais rien demandé. Hein. Je suis élu à Vialas. Mais bon, comme c'est le plus beau village de Lozère, c'est normal que ce soit là. Voilà. Et un autre petit clin d'œil, je ne savais pas si je le ferais, mais il y a 65 ans, mes parents ont quitté la Calabre pour venir dans les Cévennes, à Vialas. Et mon père est venu pour travailler avec une équipe de bûcherons. Vous voyez comme quoi. Et il était débardeur donc dans les forêts sévenoles avec un mulet. Il sortait du bois pour l'entreprise de la Lozette à Genolac et après pour Cocurès. Voilà. Donc c'était une pensée pour lui qui a été son premier métier en France, ça a été bûcheron. Voilà, donc je suis fier et heureux de vous accueillir donc pour cette première édition de la fête de la forêt donc en sud Lozère. Donc, tout d'abord, cet événement, bon, mais il a deux objectifs principaux. C'est d'abord sensibiliser les habitants du territoire aux enjeux de la forêt cévenole. Donc, je ne les développerai pas, mais pour faire court, c'est l'emploi local, c'est le tourisme, c'est le réservoir de biodiversité, c'est la lutte contre le changement climatique. On en parlera tout à l'heure. Donc, des sujets de plus en plus prégnants. Voilà. Alors, pourquoi le PETR Sud-Lozère organise ? Ben, c'est car, c'est parce que au sein du PETR, donc, on s'occupe de la charte forestière depuis 2013. Donc, c'est Margot Le Petit, mais on aura l'occasion de la revoir, qui est en charge, donc, avec toute l'équipe, donc, la charte forestière. Donc, depuis 2013, à la demande aussi des élus et du conseil syndical, on porte un intérêt accru sur la forêt. Et parce qu'aussi la forêt, ben, sur le sud de Lozère, c'est plus de 65% d'occupation du sol. Voilà. Alors, cet événement, il est co-organisé avec le Pays des Cévennes. Donc, tout à l'heure, je passerai la parole à Patrick Deleuze, qui est un des représentants, ainsi qu'à Virginie Guiroy, qui anime du côté gardois la charte forestière. Donc, ils ont été d'un grand soutien pour cette animation. Voilà. Après, je dois passer également aux remerciements. Donc, en premier lieu, donc, le Parc national des Cévennes et la commune de Florac, donc, pour leur accueil. L'appui du parc pour l'organisation de cette soirée, puisque au-delà, après de la table ronde, vous aurez un buffet. Après, je dois remercier M. Jean-Michel Boisset, qui connaît très très bien les forêts, qui est un spécialiste, les forêts cévenoles, donc d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, c'est lui qui va alimenter cette conférence. Après, il faut remercier François Rouvérol, qui est le maire de Bar des Cévennes, qui nous accueillera dès demain matin pour la fête. Monsieur le sous-préfet, donc, qui est présent dès ce soir à notre réunion, ainsi que le conseiller départemental et le président du Parc national des Cévennes, qui est aussi avec nous. Voilà. Alors, je dois aussi remercier d'autres intervenants qui participent à la table ronde. Donc, on aura un représentant de l'ONF, du CRPF, de la Fédération nationale du bois et de SOS Forêt Cévennes. Voilà. Après, je remercie également Radio Bartas, puisque c'est un solide partenaire des forêts cévenoles, car cette radio produit depuis 2018 l'émission mensuelle « Palabre en forêt », animée par les chartes forestières Sud-Lozère et Pays des Cévennes. Voilà. Après, je remercie l'Office de tourisme de Florac pour leur appui logistique également. Et un grand merci également aux financeurs de l'événement, à savoir le Parc national des Cévennes, l'Agence nationale des territoires massifs central, le département de la Lozère. Et également des mécènes privés, donc la série Phage, Néoformand, Virber Transport, Tout Faire Matériaux Martinazo, le Crédit Agricole, l'atelier Chatersen, dont on a une production là, sous nos yeux, et l'atelier de transformation de Verfeuille. Voilà. Et enfin, merci à tous nos partenaires forestiers qui se sont investis dans l'organisation de cette fête. Voilà. Alors, ce soir, la thématique, donc, de la table ronde, c'est la forêt face au changement climatique. Changement climatique, c'est une thématique qui est désormais incontournable et que l'on va aborder là sous le prisme de la forêt, qui elle aussi, on va le voir, est très touchée. On en avait déjà parlé à l'occasion du génie dans le désert. Ça y est, on peut dire on est au pied du mur. Donc, on fait des constats, mais il y a aussi des plans d'action. Donc, on va pouvoir développer ce sujet ensemble ce soir. Et surtout, n'oubliez pas, donc, demain, à partir de 9h, la fête de la forêt, donc, à Meruès, où on vous attend nombreux, à Bar des Cévennes, autant pour moi, où on vous attend nombreux. Voilà. Donc, encore merci déjà pour votre présence ce soir. Je les remercierai demain, mais merci à toute l'équipe du PETR et notamment Margot qui est en charge, donc, de la charte. Je sais qu'elles n'ont pas compté les heures. je pense que ça sera de la même trempe que le génie dans le désert. J'ai la chance de travailler avec des pros. On a déjà étonné monsieur le sous-préfet au dernier séminaire des journées dans le désert. Je pense qu'on va, essayer de faire aussi bien. Voilà. Donc je vais passer la parole à Patrick Deleuze, vice-président à la forêt du pays Cévennes. Voilà, s'il veut venir me rejoindre. Pôle d'équilibre territorial rural. Voilà. Et donc le PETR Sud-Lozère, il couvre les deux communautés de communes, Cévennes au Mont-Lozère et Causse-Gorge-Cévennes. Voilà. Voilà Patrick, merci.
Oui. Bonsoir mesdames et messieurs. Donc je me présente, Patrick Deleuze, je suis élu dans un petit village presque aussi beau que Virlas et juste de l'autre côté du Luech, Chamorigo. Donc simplement c'était une boutade pour Daniel, on se connaît depuis très longtemps. Donc je représente Christophe Rivenc, président du pays Cévennes, qui n'a pas pu être là ce soir, qui devrait être là demain à Bar des Cévennes pour nous accompagner. Et nous avons effectivement co-organisé cet événement, mais c'est plus qu'une co-organisation. On travaille main dans la main, les deux chartes forestières, PETR et Pays Cévennes, depuis, on va dire, presque 2014, puisque des communes étaient au Pays Cévennes, et puis il y avait la loi NOTRe, ça s'est séparé. Mais on a reconstitué ce travail que nous avions débuté en 2010 ensemble, et parce que la forêt n'a pas de frontières administratives. Donc nous sommes dans un même massif, nous utilisons les mêmes voies, du moins pour les vallées qui nous concernent. Donc nous avons décidé de travailler ensemble et nous menons une politique qui est vraiment importante pour la forêt. Et on est très fiers d'organiser cette première fête de la forêt qui aujourd'hui prend tout son sens quand on voit ce qui se passe au niveau du dérèglement climatique, des grands incendies qu'on a commencé à voir l'année dernière et qu'on a vu cette année dans les PO qui sont dans une situation catastrophique. Nous avons cette chance d'avoir cette forêt. Il faut en profiter. Il faut pouvoir faire des choses dans la forêt tout en la préservant, tout en l'adaptant au changement climatique. Et c'est pour ça que je voulais remercier des partenaires un petit peu particuliers, c'est vrai. On travaille ensemble tout le temps. Donc l'ONF, le CRPF et bien d'autres aussi, mais aussi SOS Forêt Cévenol, qui nous accompagne dans notre copile et avec qui nous pouvons discuter de toutes les thématiques. Et ça, c'est important d'associer et de faire vraiment un bloc autour de cette magnifique chose qu'est la forêt Cévenol. Le pays Cévennes, lui, il a la chance d'avoir un massif Cévenol, mais il a aussi un massif méditerranéen, qui est plus important au final. Nous, on a beaucoup de forêts méditerranéennes, avec des difficultés encore pires que les nôtres. Donc, on travaille là-dessus, on avance. C'est vraiment donner aujourd'hui envie aux gens de s'intéresser à la forêt. La forêt, c'est cet espace vivant, cet espace qu'on doit protéger, qu'on doit améliorer, qu'on doit adapter. Les Cévennes ont toujours été aménagées par l'homme. Ça, c'est une certitude. Le parc national en bénéficie, puisqu'il y a un classement à l'UNESCO, c'est les hommes qui ont aménagé tout ça. Toutes les terrasses, tout ça, les châtaigniers. Alors vous, ici, vous êtes encore un peu préservés, mais nous, dans le Gard, en particulier dans le versant sud, et puis en dessous de, maintenant, on va dire à 400 mètres, le châtaignier n'existera plus. Il est en train de disparaître, il est remplacé par des espèces qui arrivent. Une qui est dominante pour l'instant, qui est le pin maritime, que nous mettons en valeur aussi dans un groupe de travail avec la charte forestière du PETR à Sud-Lozère. Et donc, d'ailleurs, je tiens à préciser aussi que nous avons la chance d'avoir un représentant de Holist, Luc Le Neveu, qui est le premier, entre guillemets, producteur mondial huile d'essentiel de térébenthine bio. Et c'est un des partenaires de notre groupement entre le PETR Sud-Lozère et Pays Cévennes dans l'action de GEMAGE que nous développons pour l'instant dans le Gard et que nous espérons pouvoir venir mettre en place sur votre territoire aussi. Je ne vais pas être plus long. Merci de m'avoir écouté. Je suis un petit peu bavard et je vais passer la parole à monsieur le sous-préfet, dont je remercie la présence.
Bonsoir à tous. Mon propos sera beaucoup, beaucoup plus court puisque c'est juste pour vous saluer et vous dire que je suis donc David Ursulet, le sous-préfet de l'arrondissement du sud de la Lozère, qui compte les 38 plus belles communes de la Lozère. Sur ça, je suis à peu près sûr qu'on soit tous d'accord. Et pour vous dire que j'étais un peu embêté pour la fête de la forêt, puisqu'en réalité, demain, je ne peux pas aller à Bar des Cévennes, puisqu'on a un événement pompier en même temps. Et quand j'ai vu qu'il y avait une ouverture ce soir, qui en plus s'ouvrait sur une conférence qui s'intitulait « Quel avenir pour nos forêts ?», j'étais particulièrement heureux. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, je vais avoir les réponses à toutes les questions que je me pose toute la semaine quand on travaille sur le sujet. Donc merci aux organisateurs, au PETR plus particulièrement. Quand on lit le titre, on peut le prendre de deux façons. Soit une façon un peu... Là, on est le 12 mai. On a tous les gens qui sont là, j'en suis certain, ont conscience des réalités, des particularités de notre territoire. Certes, on a une forêt absolument magnifique. En même temps, on est tous, à peu près tous, préoccupés par des questions d'eau, des questions de prévention du feu, des questions de valorisation économique ou pas économique, de valorisation humaine, d'emploi, d'espèces, de choix, de... Toutes ces questions-là, en réalité, constituent une bonne partie, il faut le savoir, du travail d'un sous-préfet d'arrondissement dans lequel il y a une couverture forestière aussi importante que dans le sud de Lozère. Donc on peut lire ce titre en se disant « Mon Dieu, nous sommes le 12 mai et la période qui approche, les 3-4 mois qui approchent vont être terribles. Tout le monde est déjà en train de nous annoncer toutes sortes de catastrophes. Espérons qu'on les évitera. À chaque fois qu'il tombe une petite averse, je respire un petit peu mieux. Mais on peut aussi le prendre, et ça fait un peu écho à ce qu'on se disait le jour du génie dans le désert. On peut aussi le prendre dans le sens où, en réalité, pour pouvoir bien faire la prévention de tous ces enjeux qui sont sur le territoire, il faut être le plus que possible et la plus large partie de population impliquée dans la préservation des ressources en eau, dans la prévention des incendies. Et c'est aussi pour ça que je suis aussi heureux de voir qu'il y a autant de monde. Assez souvent, on voit des conférences avec, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Là, on est nombreux. Même si on aurait pu être 2000, on aurait eu du mal, mais ça aurait été encore mieux. Et donc, on peut le prendre en se disant, ben, finalement, tout le monde progresse, s'informe et avance et va contribuer à faire qu'on préserve précisément cette forêt et ses 38 plus belles communes. J'ai promis d'être bref, ce sera tout. Merci à tous. À bientôt.
Voilà pour les discours d'intro, merci à elles et eux. C'est parti pour la table ronde consacrée à la forêt. Vous écoutez Palabre en forêt sur Radio Barthas 107FM.
On y va pour la table ronde. Alors, pour que ce soit très très simple, je vais les appeler un par un et je vais leur demander de se présenter, mais vraiment très succinctement, puisqu'on m'a dit que c'était des bavards. Du coup, je vous demande d'accueillir Baptiste Algoué, qui est responsable Pôle Forêt Chasse au Parc National des Cévennes. Bonjour Baptiste. Évidemment, on va se tutoyer parce qu'on se connaît en dehors. Voilà, c'est très étonnant, mais explique-nous ton rôle au Parc National et en quoi consiste tout ce que tu fais pour nos forêts.
Donc moi c'est Baptiste Algouette, donc bonjour à toutes et tous, je suis effectivement, tu l'as déjà dit, responsable du pôle forêt-chasse au Parc National des Cévennes, donc je pense que la majorité des gens ici connaissent bien le Parc National des Cévennes. Au pôle forêt-chasse on a différentes missions, on a tout ce qui est lié au réglementaire, instruction des demandes d'autorisation, avis formel sur des documents de gestion. On essaye aussi beaucoup de travailler en amont avec les propriétaires et les gestionnaires forestiers de façon à partager les enjeux écologiques et patrimoniaux dans les forêts de façon à ce qu'ils puissent être pris en compte dans la gestion. Voilà, je m'arrêterai là pour faire court. Même si je pourrais en parler déjà des heures.
C'est sûr. Je vous demande d'accueillir aussi Yann Philippe, qui est administrateur de la Fédération nationale du bois, antenne Gare-Lozère. J'ai l'impression d'être aux Oscars de la forêt. J'adore. Bonjour et bienvenue. Expliquez-nous votre rôle.
Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Yann Philippe, gérant d'Environnement Bois Énergie, entreprise spécialisée dans l'exploitation forestière et travaux forestiers sur Alès, donc plus au sud. Petit-fils d'exploitant forestier, fils d'exploitant forestier. On a la fibre qui coule dans les veines. Voilà, et on travaille évidemment dans le cadre et le territoire du Parc National des Cévennes.
Merci, bienvenue. Christian Sent du collectif SOS Forêt Cévennes. Bonjour.
Bonjour. Moi, je suis forestier, mais c'est pas. Maintenant, je suis dans les forestiers de la vie civile. Donc, en fait, le réseau SOS Forêt s'est créé Bon, beaucoup le savent déjà lors lors de la création de l'usine de biomasse de Gardanne. On s'est créé en réaction à cette usine de biomasse, donc on est plutôt donc en défense. D'ailleurs, le nom SOS Forêt, on est en défense d'une certaine vision de la sylviculture. Et par ailleurs, moi, je participe aussi au RAF, Réseau Alternatif Forestière, qui est un réseau de professionnels de la forêt, depuis le plus propriétaire, l'exploitant et transformateur, pour faire créer à la fois une filière courte de la gestion forestière, mais aussi une gestion sobre et écologique.
Et on parlera tout à l'heure de la réappropriation citoyenne de la forêt. Et enfin, je voulais en accueillir Pierre Demangea, qui est directeur de l'Agence territoriale de Lozère, Office national des forêts, ONF. Merci beaucoup, bonjour et bienvenue. Bon, l'ONF, je pense que tout le monde connaît un peu.
J'espère.
Mais... est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer quelles sont les
Alors,
missions ?
Déjà, je peux détailler l'acronyme, hein, Office national des forêts, c'est un premier début. Et donc, l'ONF, donc moi je suis directeur de l'agence départementale de Lozère pour l'ONF. Et l'ONF, c'est donc l'établissement public chargé par l'État de gérer les forêts de l'État, les forêts domaniales et les forêts des collectivités. Donc ce rôle de gestionnaire des forêts publiques se place dans l'optique de la préservation, de la sauvegarde du patrimoine de la nation. C'est comme ça que c'est dit. Hein, voilà, c'est le patrimoine boisé de la nation, hein, public. Et donc avec une mission de sauvegarde, de protection, protection de la forêt, protection foncière, protection et pérennité dans le temps, et également une mission de valorisation. Voilà, puisque la forêt... permet de produire une ressource, un matériau qui est le bois. Le bois alimente une filière, une économie, des usages. Je pense que tout le monde ici, il suffit de lever la tête, est conscient du fait que le bois nous environne. Et je pense qu'on est tous contents d'avoir une belle charpente en bois plutôt que des IPN en acier au-dessus de nous. Et donc ça, c'est aussi le résultat de la sylviculture. Voilà.
On va parler justement de la sylviculture et de la biodiversité. Est-ce que je commence par une question piège et qui veut répondre ? Comment se portent nos forêts en France ? Qui veut y répondre ? Parc national des Cévennes ?
Moi, je peux commencer, même si je n'aurais pas la vision à l'échelle de la France qui est contrastée. Tu as oublié quelqu'un, je crois.
C'est vrai. Jean-Yves Magot du Centre national de la propriété forestière, Antenne Lozère, le grand gagnant ce soir. Ah, j'ai fait une Vanessa Paradis.
Merci.
Excusez-moi, vraiment.
C'est pas grave, Jean-Yves Merci Magot. Donc, je suis technicien au Centre national de la propriété forestière. C'est un établissement public. Qui a été créé il y a une soixantaine d'années et qui a en charge d'orienter et de favoriser la gestion durable des forêts. Mais là, nous, on se cantonne dans le milieu de la forêt privée, des propriétaires forestiers particuliers. Donc ce centre national a une délégation régionale et a une antenne lozérienne. Nous sommes une petite équipe pour un nombre important de propriétaires forestiers privés, de l'ordre de 25 000 pour la Lozère. Et donc, nous sommes également concernés par la gestion forestière.
Plus que jamais même. Excusez-moi. Vraiment beaucoup. Eh bien, c'est reparti. On commence, tout au début. Comment se portent les forêts en Cévennes ? Parlons de ça.
Je me risquerai pas. C'est vrai qu'on a eu des portraits assez inquiétants. Alors, je vais me vouloir rassurant volontairement. Je vais dire que les forêts se portent heureusement, pas si mal pour l'instant en Cévennes. On a la chance d'avoir des belles forêts diversifiées de montagne dans un climat qui est encore relativement clément. Et donc, c'est pas si pire. On est loin, heureusement, des situations catastrophiques dans le Grand Est où on a plusieurs milliers d'hectares de plantations monospécifiques qui dépérissent d'un seul coup. On a des signaux d'alerte, hein, on va le dire, on n'est pas serein quand même. Il y a des hêtres qui rougissent au mois d'août, des pins noirs aussi, des taches d'épicéa qui commencent à dépérir. Et donc voilà, on a ces premiers signaux qui nous inquiètent. Voilà, mais il faut un peu relativiser, je pense aussi, en tout cas pour l'instant. On a la chance aussi d'être dans un écosystème de montagne, ce qui fait que, en fait, les forêts en bas des ce qu'on appelle les étages de végétation vont souffrir en premier, et donc ce qui nous laisse un peu de temps de voir venir. Et voilà, donc j'essayerai d'être un peu positif, même si il y a le cas de la châtaigneraie dont on a déjà parlé, qui nous inquiète tous, et mais qui est aussi multifactoriel.
Alors justement, tous à votre échelle, comment on va faire pour s'adapter à tout ce qui va se passer, justement pour éviter, enfin pour continuer en fait au final, que ça reste un peu positif comme ça.
Alors à tout seigneur, tout honneur, je tiens à préciser quand même que le sujet de la santé des forêts, c'est un sujet qui est porté par un service qui dépend du ministère chargé des forêts, le ministère de l'Agriculture, qui s'appelle le département santé des forêts. Et donc pour embrayer un petit peu, je fais une petite digression, mais sur les propos de Baptiste, voilà, on a vraiment tout un réseau d'experts à l'échelle nationale, qui sont les correspondants observateurs du département santé des forêts, dont le rôle, c'est d'assurer une veille sanitaire, voilà, espèce par espèce, et en fonction des différents pathogènes que l'on connaît. Je trouve qu'à ma gauche, j'ai un correspondant observateur du département santé des forêts. Donc voilà, effectivement, dans chaque département, on a cette mission-là. Et alors, en matière de moyens d'adaptation, c'est parce que c'était votre question. Il y a différentes méthodes qui ont été d'ailleurs brossées en conclusion de l'exposé de M. Boissier, que je remercie aussi. Moi, je joins mes remerciements à ceux d'Hervé Le Boulaire, parce que j'ai eu un très beau rafraîchissement en termes de cours de biologie végétale qui datait déjà d'un certain temps. Et effectivement, donc, ont été évoquées, je crois, deux pistes qui ne sont pas du tout antagonistes d'ailleurs, et là je pense qu'il faut vraiment ne pas les opposer. Hein. L'interventionnisme qu'on a peut-être l'habitude d'entendre et d'écouter, et dont l'exemple le plus frappant est la plantation, puisque c'est quand même assez fréquent d'entendre parler voilà, de plantation, combien d'arbres on va planter, quelles espèces, sur quelle surface, etc. C'est un moyen, voilà, avec toute la palette de choix qui s'offre à nous, en ayant voilà, comme outils, qui sont des outils imparfaits, mais qui ont le mérite d'exister, les outils de modélisation, et qui vont nous aider à choisir les essences qu'on espérera les plus adaptées. Et la réinterrogation de nos pratiques de gestion, une sylviculture peut-être effectivement qui favorise la résilience naturelle, jouer sur le dosage de la lumière, sur le couvert forestier, sur la structure de nos peuplements forestiers. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout antagonistes. Et d'ailleurs, voilà, j'en profite pour dire que il ne faudrait pas penser que certains décideurs mettent tous leurs œufs dans le même panier et choisissent de planter à tour de bras sans se préoccuper du reste, et d'autres sont pour une vision un peu plus naturaliste. Voilà, il y a bien une complémentarité entre les deux approches. Voilà, c'est ce qu'on s'attache à mettre en œuvre.
Christian, vous en pensez quoi de tout ça?
Oui, alors bon, moi je suis des basses Cévennes, donc j'aurais tendance à être dans le moins optimiste du schéma. Je pense que pour les basses Cévennes, on est affronté à deux friches, une friche agricole. La châtaigneraie, qu'il nous faudra gérer. Et je crois qu'aujourd'hui, la gestion, elle ira dans deux sens. Valorisation de la châtaigneraie parce qu'elle est encore valorisable là où c'est possible. Et là où la châtaigneraie n'est plus valorisable, il faudra travailler à une diversité des essences parce que ça reste quand même un vaste domaine à gérer. Deuxième friche, c'est la friche industrielle. Le pin maritime. La pin maritime, c'est une friche industrielle au sens où le pin maritime a été introduit pour l'industrie. Et aujourd'hui, nous avons la nécessité de valoriser cette friche industrielle. Et je crois qu'il ne faut pas abandonner le pin maritime, qui est particulièrement, à mon avis, bien adapté au climat méditerranéen, surtout au climat méditerranéen en évolution. Mais il faudra sans doute en faire autre chose que ce que je vois autour de chez moi, en tout cas proche de chez moi, de beaux pins maritimes qui partent aujourd'hui en bois d'industrie. En tronçon de 2 mètres pour faire du bois d'industrie. Alors, je ne sais pas si c'est pour faire de la biomasse énergétique ou pour faire d'autres triturations, mais ça, cette valorisation-là ne valorise rien et ne conduit pas aux propriétés privées de gérer une forêt dans ces conditions. Donc, on a deux friches à gérer, mais je rajouterais par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, on a un vrai enjeu dans la forêt méditerranéenne, c'est la préservation des sols.
Et toutes les pratiques, toutes les techniques, toutes les, que ce soit reboisement ou que ce soit l'exploitation, qui vont dans le sens de la dégradation des sols, doivent être des pratiques qui doivent être bannies. Il faut bannir un certain nombre de pratiques sylvicoles qui dégradent les sols. Et tu as parlé du hêtraie. Moi, dans le cadre de forêt méditerranéenne, on a visité une hêtraie dans les Bouches-du-Rhône, dans un massif à côté d'une abbaye. Je ne me rappelle plus le nom de l'abbaye, mais peut-être d'autres. Parce que c'est...
La Sainte-Baume.
Voilà, merci, Hervé. Cette hêtraie, elle n'est pas seulement résistante génétiquement, c'est parce qu'elle est là avec son humus, son sol, qui permet, parce qu'il n'y a pas que des hêtres, il y a aussi d'autres essences qui sont très sensibles à la sécheresse et qui survivent dans ce milieu-là, parce qu'il y a l'humus. Et je rappelle que le complexe argilo-humique, c'est notre meilleure ressource en eau. C'est ça qu'il faut préserver. Et d'une part, c'est une ressource en eau, c'est une éponge, mais aussi, c'est ce qui permet, au lieu que l'eau dévale les pentes, au lieu que l'eau parte, parce que ce que tu n'as pas dit, c'est que la plus grosse concentration de matière organique et de matière minéraux, ça a été la Camargue. C'est-à-dire, en fait, dès qu'il y a des grosses pluies, c'est l'embouchure du Rhône qui concentre le plus. Donc, il faut que l'eau ne dévale moins vite. Et pour qu'elle dévale moins vite, il faut de l'humus. Il faut donc conserver ces sols et les sols les plus profonds possibles. Donc, arrêtons.
Ce sont des barrières, en tout cas.
Arrêtons un certain nombre d'exploitations forestières.
Justement, sur les exploitations ou la gestion forestière, mauvaise gestion, bonne gestion, c'est tout un débat. D'après ce que j'ai pu lire, est-ce que nos forêts sont bien gérées? Ouais.
On tente de les gérer du mieux que l'on peut. Il n'y a pas une forêt, il y a plein de forêts, il y a plein de cas particuliers, de sol, de pente, d'exposition, de conditions d'exploitation. Effectivement, c'est pas toujours très simple d'exploiter une forêt. Et l'exploitation forestière, c'était aussi un travail qui était très physique. Donc la modernisation, c'est aussi soulager l'effort humain. Alors effectivement, aujourd'hui, on travaille avec des machines qui sont grosses, mais dont les constructeurs, dont les concepteurs essayent de progresser pour limiter les tassements au sol. On essaye, de par les conditions d'exploitation, de limiter les passages en forêt, mais on peut difficilement revenir à un stade idéal qui serait d'aller chercher des arbres avec un mulet ou à dodo, mais en coupant ça à la hache sans dégager un brin de gaz carbonique. Donc il faut arriver à trouver des alternatives, et je pense que tout le monde essaye de travailler dans ce sens. Je ne dis pas qu'on fait les choses parfaitement, mais on essaye de progresser en tenant compte également des conditions de travail de l'homme.
Yann.
Oui, je rejoins ce que vous dites, c'est que aujourd'hui, tout le monde a à cœur et à l'esprit ce qu'on fait, des travaux d'exploitation forestière, de limiter au maximum l'impact au sol, de travailler dans des conditions où, lorsque les sols sont trop gorgés d'eau, on tâche de ralentir les travaux, voire de les stopper totalement. Et effectivement, on vous en parlait tout à l'heure, c'est que on ne pourra pas revenir en arrière. Le travail de bûcheron de l'époque avec le mulet et le passe-partout, ça ne marchera pas. On est passé sur des modèles économiques qui nous obligent à être productifs, rentables, parfois à tort. Mais pour autant, les constructeurs ont à cœur de faire des machines qui réduisent les impacts au sol en multipliant le nombre d'essieux et de pneus par machine. Et aujourd'hui, on est tous conscients du fait que nous sommes regardés de près et que la forêt est observée à la loupe, parce que c'est un vrai enjeu pour les états à venir et l'environnement est quelque chose de prégnant dans la tête de tous. Donc nous, professionnels de la forêt, on tâche d'être les vecteurs d'un mouvement qui va vers l'idée de faire mieux, en étant toujours conscient qu'il faut faire davantage, mais en des conditions qu'on tâche de rendre les meilleures possibles. Voilà.
En tout cas, est-ce que c'est compliqué pour vous, justement, de concilier environnement, enfin, comment ça se passe concrètement pour qu'on comprenne?
Il y a deux notions qui peuvent paraître antagoniques, c'est que l'économie et l'environnement, c'est notre cheval de bataille, c'est qu'on est, on est toujours en train d'essayer de faire, encore une fois, de façon la plus propre possible, mais en tenant compte de contraintes économiques, évidemment, et le fait que nous travaillons, par exemple, en Cévennes, qui est un territoire quand même délicat, avec de la pente, avec des essences qui ne sont pas forcément de grande valeur, on est obligé de faire avoir du rendement malgré tout, parce que la contrainte économique elle est constante. Donc voilà, on doit composer avec deux composantes qui sont parfois qui se rejoignent pas toujours, mais qu'on tâche de rendre compatibles. Voilà.
Baptiste, est-ce que c'est possible pour le parc de donner des billes justement pour essayer de mettre en exergue ces deux composantes-là, justement?
Oui, c'est ce qu'on s'efforce de faire un peu au quotidien. Mais je voulais rebondir juste sur quelque chose, ce que Yann disait juste avant, et c'est quelque chose qui est vraiment important en forêt pour comprendre comment ça fonctionne. C'est que la forêt, on dit toujours, elle a 3-4 fonctions. La fonction économique, production de bois, la fonction environnementale, la fonction sociale. Je ne détaille pas, je pense que c'est assez limpide. On pourrait rajouter la fonction de protection, avec tout ce qui est protection des sols, de l'eau, de l'air, etc. Plus la notion d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Si je dis ça, c'est que parmi ces 3-4 fonctions de la forêt, il y en a une qui finance toutes les autres, c'est la fonction de production de bois. En fait, c'est la production de bois qui va permettre aux propriétaires de gérer sa forêt. Sans production de bois, le propriétaire ne gagne pas d'argent et la forêt lui coûte. Les autres sont des services gratuit rendu par la forêt, mais pour lequel le propriétaire doit investir. Donc ça, c'est effectivement, alors on est au-delà de ce qu'on est capable de faire de notre rayon d'action, mais c'est quelque chose de super important de comprendre pour bien saisir la façon dont on gère ça. Maintenant, effectivement, tu fais bien de le souligner, et c'est le sens du propos, il y a moyen de concilier production et protection de l'environnement, il y a moyen de concilier ces différentes fonctions. Nous, on a tendance la politique forestière du parc national, on peut la résumer en 5 points. Donc je vais les faire assez rapidement. C'est diversité des essences, éviter les plantations monospécifiques, mais favoriser le mélange d'essences. Essence autochtone plutôt qu'essence allochtone, sylviculture à couvert continu, la sylviculture régulière plutôt que de la sylviculture régulière, donc ce qui permet d'éviter les coupes rases, plutôt travailler sur des interventions ponctuelles, régulières, mais relativement légères. J'en oublie deux, j'ai dit ça, diversité des essences, développement de la trame de vieux bois. Donc, c'est-à-dire garder des espaces en libre évolution. Alors, soit à l'échelle de la forêt, ce qu'on appelle les réserves, soit à l'échelle du peuplement, quelques hectares, ça va être la conservation de quelques peuplements, c'est ce qu'on appelle les îlots de sénescence, et conservation d'arbres d'intérêt écologique au sein des peuplements gérés. Et en fait, voilà, je pense qu'avec ces grands axes, on peut concilier production de bois et préservation de l'environnement. Alors après, il faut prendre en compte aussi tout le reste, le paysage, la fréquentation. Et donc voilà, c'est un sacré défi. Mais aujourd'hui, c'est possible et il y a pas mal de forêts qui montrent que c'est le cas.
Quand on sait aujourd'hui que la forêt en France, on est dans des chiffres entre 70 et 80% de part du privé et une vingtaine de pourcents de public, c'est à peu près ça les chiffres ? Plus ou moins. Est-ce que justement le fait que ce soit propriété privée est un problème, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui peut aider? Et est-ce que les organismes publics, je pense à l'ONF ou Parc ou autre, est-ce que vous avez des billes à donner aux propriétaires aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème finalement?
Un problème, je pense pas. Après, c'est sûr que la gestion est plus ou moins facilitée par l'échelle de surface, déjà.
par les moyens que peut se donner le propriétaire. C'est évident que dans le département, par exemple, on a en termes de ratio de surface, effectivement, on est à peu près dans ce sorte de grandeur-là, voire même avec une proportion de forêt privée qui est plus importante encore. Et en termes de nombre de propriétés et de nombre de propriétaires, là, on est sur des nombres qui sont très importants pour la propriété privée. Je crois qu'il y a plusieurs milliers ou dizaines de milliers, voilà, 25 000 propriétaires forestiers privés. Là où on a, dans le département, 12 forêts domaniales, ouais, vous comprenez, avec les chiffres, on comprend aisément qu'on n'est pas face aux mêmes difficultés de gestion. Moi, je voulais juste, si vous permettez, revenir sur une chose. On a parlé à plusieurs reprises de la diversité des sens et du fait qu'effectivement, pour augmenter la résilience naturelle des peuplements forestiers, c'est important de jouer sur cette diversité des sens. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que certes, aujourd'hui, dans le département, on a des massifs qui sont des massifs monospécifique, régulier. Voilà. Donc, c'est peut-être pas le top, voilà, sur le plan de la résilience. Mais ces massifs, c'est l'héritage d'une gestion passée. Voilà. Et c'est l'héritage d'une gestion qui a été entreprise dans un contexte différent pour répondre à des besoins différents. Voilà. Je prends par exemple l'exemple le cas de la forêt de Mal de Mende. Voilà. Ça a été dit tout à l'heure, au cours fin 19e siècle, début 20e siècle, il y a eu une politique de restauration des terrains de montagne qui a été entreprise et qui a consisté à boiser massivement des surfaces très érodées pour faire face justement au risque d'inondation, d'érosion, de glissement de terrain, etc. Donc voilà, je voulais quand même faire cette petite digression pour dire que oui, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des modalités de gestion qui sont à questionner parce qu'on fait face à des problématiques différentes. Mais l'héritage que nous, forestiers, nous avons à gérer, il s'explique par des contextes et des problématiques différentes que nos prédécesseurs avaient à gérer. Je voulais juste faire cette petite remarque.
Voilà. On est là pour ça. Hein. Alors, en même temps, est-ce que pour SOS, Forêt Cévennes, est-ce que c'est problématique pour vous, cette gestion privé, public, comment vous voyez le truc?
Oui, c'est... Alors, bon, je t'avouerai que je pense que la forêt devrait être, comme beaucoup d'autres ressources, un bien commun. Et ça existe déjà en Lozère.
On est là pour ça. Hein.
Il y a des sectionaux qui appartiennent à l'ensemble des habitants de la
Ça, de les sectionnaux existent.
Ça, c'est un point qu'il faudrait sans doute avoir un parce que je suis propriétaire forestier, mais je considère que la forêt ne m'appartient pas. Voilà. Donc, il y a une réflexion. Moi, le problème, ma réaction, elle est plutôt sur ce que tu as dit avant. Je crois que dans l'agriculture, On a prouvé aujourd'hui que quand il y a une gestion de proximité, c'est-à-dire que le gestionnaire s'adresse dans une économie de proximité, souvent on a une agriculture qui est beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus, je dirais, soucieuse de l'environnement, beaucoup plus respectueuse. Et je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on ait la forêt, comme on l'a dit, c'est en partie une production de végétaux ligneux pour différents usages, et pas seulement des usages de construction, c'est différents usages. Et ces différents usages, ils devraient être, je dirais, dans une économie au service des habitants du territoire, et non pas, comme c'est aujourd'hui, une économie de rente. Aujourd'hui, on vend le plus cher possible avec des coûts les plus bas possibles dans une économie internationale. Là, j'étais moi dans un séminaire la semaine dernière dans le parc national forestier en Haute-Marne. Ma première question, enfin, j'étais avec en particulier la présidente du comité économique et social de ce parc. J'étais étonné en arrivant dans ce parc. Je ne voyais aucune scierie dans un parc national de la forêt, pas de scierie. C'est-à-dire qu'on avait un espace boisé de très grande qualité, pas de scierie. C'est-à-dire pas d'économie locale. C'est-à-dire qu'on avait une forêt et il est fort probable que tout ce qui sortait de cette forêt allait inonder le marché international, mais ne servait en rien aux habitants du territoire. Comment peut-on penser qu'on peut préserver utilement, intelligemment une forêt dans ces conditions ? Aujourd'hui, on doit cesser en tant que propriétaire de vendre du bois sur pied. On doit vendre du bois trié bord de route, de façon à pouvoir avoir en face de nous des utilisateurs, en particulier des scieurs, qui ont des usages différents. Il y a des scieurs. Bon, moi, j'ai fait dans mon ancienne vie ce type de vente. Eh ben, il y a des acheteurs pour du bois, pour des châtaigniers, bois de chauffage. Il y a des acheteurs pour des châtaigniers, je dirais, charpente. Et il y a des acheteurs pour des châtaigniers sciage pour faire du bois de meilleure qualité. Et si on vend une coupe bois sur pied, eh bien, c'est le moins valorisant qui va acheter parce que les petits acheteurs, eux, ils vont avoir qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce qu'ils n'ont pas l'usage. Donc on n'a pas une vraie valorisation de la forêt. Donc vente bois trié par le propriétaire à des usagers. Faut-il encore que les scieurs existent encore? Et aujourd'hui, ils ont tous disparu de nos villages, les scieurs. Quant aux menuisiers, il y en a de moins en moins. Donc, on a déstructuré une économie et on voudrait faire de la forêt. Non, il faut d'abord restructurer une économie et après, on pourra faire une gestion forestière de proximité, de qualité et non pas par des drones et des logiciels.
En tout cas, ce que j'ai bien compris, c'est que ce soit propriété privée ou en tout cas publique, c'est que privé ou public, c'est réfléchir à mieux en circuit court et de vous avoir.
Parce qu'on vend mieux en circuit court, parce qu'on valorise mieux ce qu'on a chez soi, parce que celui qui va l'utiliser en a plus de respect et est prêt à le payer mieux. Et cette sylviculture-là n'existe. Et ça entraîne derrière une sylviculture. Parce que, effectivement, aujourd'hui, nous savons très bien que le sillage industriel ne valorise pas nos bois. Fait des bois de mauvaise qualité et des bois qui ne sont pas durables. Alors, on en parlera sans doute dans notre débat.
Vous voulez réagir, peut-être?
Alors, il y a des choses qui sont effectivement vraies et on regrette effectivement d'avoir vu cette disparition de petites structures. Mais on n'est pas si déshérité que ça en Lozère. On a quand même une filière bois qui est cossue. Hein. On a encore un nombre de scieries de taille moyenne et qui recouvre un peu plus le nord du département, un petit peu moins, mais on a quand même un tissu non seulement de scieurs mais d'exploitants forestiers. Le circuit court, ok, mais le problème c'est qu'en Lozère on n'est pas nombreux, on est 70 000 habitants et donc on a largement de quoi satisfaire nos besoins, mais il faut qu'on pense aussi un petit peu à nos collègues voisins qui en ont moins de forêts. Donc nos bois peuvent être exploiter ou s'y est sur place, mais effectivement, ils ne vont pas tous servir à la filière, enfin, aux locaux. Il y a une forme de solidarité. Donc, moi, je suis OK pour la petite entreprise de proximité, mais c'est difficilement concevable avec les massifs forestiers que l'on a et qui sont producteurs de bois. Ensuite, je voulais dire une deuxième petite chose. Si la propriété privée, c'était un problème, je pense que ce n'est pas un problème. Et je dirais presque au contraire, c'est un problème pour nous de gestion, parce qu'effectivement, la petite propriété se gère de plus en plus difficilement de par les moyens que l'on a derrière au niveau de l'exploitation. Mais par contre, ça fait aussi la diversité des forêts. On a un propriétaire qui va plutôt être adepte de la futaie régulière sur des petites surfaces. Un jour on fait une trouée d'un hectare et puis on le reboise, est-ce que c'est pas aussi une forme de diversité? On va avoir d'autres propriétaires qui ont une acquaintance plus importante pour l'environnement, peut-être qu'il va conserver ses vieux bois, des bois pourris, etc. Je pense que c'est une richesse que d'avoir aussi de nombreux propriétaires forestiers privés. C'est une difficulté pour nous pour la gestion, mais c'est une richesse, je pense, pour l'environnement.
C'est vrai que j'ai eu tout le monde acquiescer là pour le coup. Si vous voulez réagir, allez-y.
Oui, réagir pour dire deux choses. Effectivement, la propriété privée, c'est un facteur de richesse, ça c'est certain. Il y a autant de gestion que de propriétaires et c'est tant mieux. Et au-delà de ça, On parlait tout à l'heure de est-ce que, vous posez la question, est-ce que les forêts sont bien gérées? On n'a pas évoqué le fait que cette gestion, elle est encadrée. Voilà, à l'échelle de chaque propriété forestière, quand on dépasse un certain seuil de surface, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire n'importe quoi. En termes de coupe, d'exploitation, de renouvellement de la forêt, il y a des plans de gestion qui s'appliquent pour les forêts privées. Le pendant en forêt publique, ce sont les aménagements forestiers, mais c'est le même principe, voilà, qui s'attachent à proposer une gestion sur une période d'une vingtaine d'années. Voilà. Donc on gère la forêt sur le temps long, et donc on le gère avec ces plans de gestion. La deuxième chose, je voulais revenir sur la question de la valorisation locale du bois et des produits. Effectivement, je vais dans le sens de ce que vient de dire Jean-Yves Magot. En Lozère, c'est pas le cas partout. En Lozère, on a une filière bois qui n'est pas moribonde. Hein. Loin s'en faut, je dirais. Et on a même une filière qui est inventive et qui a des projets. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, peut-être que ce sont des projets qui ne sont pas tous des projets d'une échelle suffisamment locale au goût de certains. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, il faut aussi être en capacité de s'adapter aux nouveaux usages du bois, aux nouveaux débouchés. Voilà. Et ça force aussi à cette créativité. Voilà. Et donc, par rapport à l'enjeu de valorisation locale de la ressource, je tenais à dire aussi que ça, il y a une prise de conscience au niveau de l'État du fait que la vente sur pied engendrait peut-être une certaine, un déficit de la balance commerciale, en fait, hein, pour être clair, avec une ressource qui part à l'export et qui ne profite pas suffisamment aux transformateurs locaux en France, voilà, sur le territoire métropolitain et dans les départements en fonction de là où on se situe. C'est la raison pour laquelle l'État a demandé à son opérateur, l'ONF, pour les forêts publiques, de mettre en place des contrats d'approvisionnement, hein, donc de contractualiser avec les clients de la filière sur le territoire, les transformateurs, pour leur garantir un accès à la ressource et donc pour leur vendre le bois soit bord de route, exploité, débardé, soit directement livré usine. Voilà. Et donc cette contractualisation, elle se développe. Ça se fait pas en claquant les doigts, puisque il faut quand même qu'on passe des partenariats, pardon, avec des entreprises, des exploitations forestières, hein, qui vont travailler pour nous, pour ensuite mettre le bois bord de route, et des transporteurs pour l'emmener jusqu'aux usines. Mais c'est vraiment une tendance lourde qui permet justement d'aller dans le sens de la relocalisation et de la garantie que une partie conséquente de la ressource soit valorisée sur le territoire.
Yann voulait réagir peut-être.
Alors oui, tendance lourde que vous évoquez de faire façonner des bois et de mettre du bois à bord de route, qui ne va pas forcément dans le sens de l'exploitant forestier que je suis, puisque ce travail-là, c'est notre cœur de métier d'acheter le bois, de le couper, de le transformer et de le livrer aux utilisateurs locaux, parce qu'on en parlait tout à l'heure, en Lozère, vous êtes très très bien pourvu. Le Gard, on l'est un peu moins, mais la filière, le syndicat, c'est le syndicat Gard Lozérien, donc je m'inscris dans cette démarche-là. Il y a quand même de nombreux consommateurs papetiers qui sont des gros industriels à côté de chez nous. Il y a des utilisateurs, qu'est-ce que sont les scieurs palettes, qui sont nombreux autour de Mende notamment. Je pense que on a la possibilité, nous, en tant qu'exploitants, de trouver des débouchés et des exutoires locaux sans forcément à imaginer et à agiter le fanion rouge des bois qui partent à l'export. Je ne nous sens pas très concernés par ce problème-là. On est tous conscients qu'on a un vivier de d'utilisateurs à portée de transport, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ça qui régit aussi l'activité, c'est le coût de l'acheminement des bois chez nos clients. Donc on est tous conscients du fait qu'on a moyen de travailler et de bien valoriser le bois en fonction des différents utilisateurs clients que nous avons dans nos portefeuilles chacun d'entre nous.
On continuera ce débat-là juste après, puisque parlons justement d'adaptation et des vrais problèmes, comme Jean-Michel l'a dit dans sa conférence, auxquels on va faire face et auxquels on fait face, en fait, sécheresse, etc. Chacun à votre échelle, puisque vous êtes tous dans la filière bois, comment on fait face à ça? Et déjà, est-ce que Est-ce que vous avez peur, je sais pas, d'un gros incendie demain en Cévennes?
Ouais, forcément, quand sur un territoire avec 70% de forêt, c'est le truc, l'épée de Damoclès dont on a tous peur. Après, il ne faut pas que ça nous fige, je pense, et que ça nous empêche d'agir. Jean-Michel a évoqué, Pierre l'a repris, sur les différentes solutions et le fait qu'elles ne s'excluaient pas l'une l'autre. Nous, en termes d'adaptation au changement climatique, on a une politique... Qui se base sur une approche un peu différenciée. On est quand même dans un cœur de parc national. La forêt, dans les parcs nationaux, ça représente même pas 1% du territoire français. Donc, ce qui peut se faire ailleurs, de planter, de tester tout un tas d'essences potentiellement ou prétendument mieux adaptées au climat de demain, nous, on... Non pas qu'on l'exclue, hein, pourquoi pas, c'est effectivement quelque chose qui peut se tester. Après, on se dit que dans un parc national, qui est une aire protégée, il n'y en a pas des masses des parcs nationaux en France, on serait partisan d'une approche, disons, qui misant sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Donc, est-ce qu'on pourrait pas, dans un parc national, se baser sur... la résilience, la résistance naturelle des peuplements, au moins dans un premier temps, voir comment ça évolue. Après, un écosystème en bonne santé, avec une biodiversité préservée, des mélanges d'essences, une régénération naturelle riche, on sait que ça a des capacités d'adaptation, et avant de tirer un trait sur la forêt, de déclarer qu'elle est condamnée, attendons de voir si vraiment il y a un souci. Par contre, il y a quelque chose qui paraît essentiel dans l'approche, c'est ce qu'on appelle la gestion adaptative. Donc c'est encore des grands mots. Mais bon, l'idée, c'est qu'on a le droit de se planter. Et il faut pouvoir être réactif, il faut être relativement souple. Et si on voit que ce qu'on a fait... ça veut dire aussi qu'il faut suivre, observer de près la forêt et les impacts de la gestion qu'on prend sur cette forêt. Si on voit... qu'on a fait fausse route, et ben pouvoir réagir. Et donc, ça, voilà, ça nécessite aussi un peu d'humilité par rapport à ça dans cette approche. Ouais.
Le droit de se planter pour un arbre, c'est normal. Oui, je vous écoute.
Je voulais réagir. Réagir là-dessus. On parle les solutions fondées sur la nature. Tout à l'heure, M. Boissier parlait de mimétisme. Je crois que c'est pas tout à fait le terme employé, mais enfin voilà, d'essayer d'étudier la résilience naturelle des écosystèmes forestiers. Je vais citer l'adage que les sylviculteurs connaissent bien, hein, d'un des fondateurs de la sylviculture en France, Adolphe Parade, années 1910. La sylviculture, c'est quoi? C'est imiter la nature. C'est justement ça. Et c'est hâter son œuvre. Voilà. Et hâter son œuvre, on est bien là-dedans quand on parle de gestion adaptative. Tout à l'heure, on a parlé de remontée altitudinale et de remontée en latitude des essences, qui va se faire naturellement, mécaniquement, avec l'augmentation des températures. Mais il a été dit après, en remarque, que la capacité des essences à migrer naturellement vers le nord ou en altitude est quand même inférieure à la vitesse d'augmentation des températures aujourd'hui. Donc le principe de la migration assistée, c'est justement de donner un petit coup de pouce à la nature pour faire en sorte que les essences qui demain seraient plus adaptées à un autre étage de végétation qu'aujourd'hui, on les y implante dès à présent, ou en tout cas dans un terme plus rapide. C'est pas l'alpha et l'oméga de l'adaptation des forêts au changement climatique, mais c'est une solution qu'il faut pas négliger. Quoi.
Question.
Oui, un des dangers qu'on peut présumer pour la forêt méditerranéenne, c'est effectivement l'incendie. On a quand même une expérience de l'été dernier où il y a deux types de zones qu'on brûlait. La forêt des Landes, monoculture d'une espèce à courte rotation, c'est-à-dire des arbres, là-bas, on les coupe tous les 40, 50 ans, c'est-à-dire on a en fait en permanence un milieu qui est très très embroussaillé, puisque courte rotation veut dire beaucoup de végétation les 20, 30 premières années. Donc on a la monoculture doit être évitée, doit même être, je dirais qu'il faudrait même avoir des normes pour l'interdire, pour reprendre une parole d'un président de la République. Donc interdire la monoculture. Deuxièmement, faire que le milieu soit diversifié, et pas seulement un milieu forestier. Et là, c'est l'exemple de la, de la Bretagne. En fait, ce sont les landes, des landes abandonnées par l'agriculture, qui ont entraîné que ça a les landes, feu dans les landes, et abandonnées, ça brûle les forêts. Et les zones où ça s'arrêtait, c'était là où les agriculteurs ont continué, entretenaient les prairies où il y avait des troupeaux. Donc, un milieu à la fois pas de monoculture forestière et pas de forêt sans interruption. Et les interruptions, ça peut être diverses formes de culture. Et c'est pour ça que moi, je milite aussi pour la préservation de la châtaigneraie fruit, parce que la châtaigneraie fruit, c'est un milieu qui coupe. Qui fait une coupure au milieu d'une forêt de châtaigniers bois. Et donc, il faut qu'on ait aussi un milieu où il y ait des coupures naturelles qui sont des coupures naturelles qui sont de nature agricole entretenues par l'homme. Et là, si on a une forêt diversifiée en étage et en essence, si on a un milieu forestier dense, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grande... Pas des courtes rotations avec des coupes à blanc régulières, etc., eh bien, sans doute, cet aspect-là, on arrivera à mieux le gérer que d'ailleurs, la forêt méditerranéenne, très peu brûlée, parce que justement, elle est encore aujourd'hui très diversifiée. Ce qui, à mon avis, est notre danger aujourd'hui, c'est la fermeture du milieu agricole. Aujourd'hui, il faut préserver les activités agricoles autour de la forêt pour éviter une fermeture complète du milieu. Et ça, bon, sur l'aspect, feu. Je pense qu'il faudrait qu'on parle des biodiversités, parce que la biodiversité, ce n'est pas seulement, un spectacle, un paysage ouvert à nos yeux, c'est aussi notre milieu de vie. Nous ne pouvons pas vivre dans un milieu où la biodiversité a disparu. Nous ne pourrons pas y vivre. Donc, et ce n'est pas seulement quelques petits spots, réserves naturelles en forêt qui nous permettront de vivre. C'est qu'on ait une vraie gestion de l'espace biodiversifié dans lequel nous pouvons vivre.
Jean-Michel l'a abordé et même vraiment l'a bien dit dans sa conférence. Je pense que c'est exactement ça. C'est tout un écosystème et qui doit être sur des kilomètres et des kilomètres carrés. Justement, si on parle d'écosystème, de biodiversité et si on parle de protection, tout ça, est-ce que pédagogiquement parlant, dès l'enfance, dès l'école, il y a des choses qui sont mises en place par vos différents organismes pour sensibiliser un peu tout le monde à ça? Alors aujourd'hui c'est super, il y a 80 personnes ici, demain il y a la journée, la fête de la forêt, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer dès le berceau? En plus, la forêt avec le petit poussé par exemple, c'est un peu notre imaginaire, ça fait partie de là. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui concrètement dans les écoles, je sais pas, par l'ONF ou par le parc, est-ce que ça existe?
Bon, je peux commencer. Effectivement, parmi les trois grandes missions du parc, il y a accueillir et sensibiliser. Donc l'éducation à l'environnement et la sensibilisation fait partie intégrante de nos missions. Les collègues du service accueil et sensibilisation sont bien placés. Et c'est vrai que c'est peut-être l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on parle de plus en plus de forêts. Je pense que les gens s'y intéressent de plus en plus, y accordent de plus en plus d'importance. Dès effectivement la petite enfance, et pas juste effectivement dans l'imaginaire des contes de la forêt qui fait peur, mais aujourd'hui je pense que les enfants aiment la forêt, et c'est vrai que et nous aujourd'hui on agit beaucoup. Je pense que aussi que ce qui a été fait, il y a eu plusieurs animations cette semaine, hein, un peu en préambule de la fête de la forêt dans les écoles. L'ONF est intervenu, les collègues sont intervenus également dans les écoles pour parler forêt, et nous on est beaucoup sollicité, que ce soit le pôle forêt plutôt au niveau études supérieures ou secondaires, que ce soit au niveau du programme d'animation estivale du parc, hein, chaque été on propose pas mal d'animations sur tout le territoire. La forêt est forcément présente à un moment ou à un autre, et on a la chance d'avoir dans l'établissement public du parc national des Cévennes une enseignante détachée du ministère de l'Éducation qui consacre 100% de son temps à ça. Donc elle conçoit et elle anime après, tout au long de l'année, un programme, je crois que ça s'appelle « J'apprends avec le parc » auprès des écoles du territoire. Donc c'est peut-être pas partout en France, mais en tout cas on a cette chance dans le Parc national des Cévennes d'avoir cette force de frappe, on va dire, et de conviction auprès des enfants.
Pierre.
Oui, on a effectivement une mission également d'éducation à l'environnement à l'ONF. Et moi, je dirais que la première des choses pour initier ou pour intéresser à la forêt, c'est de la pratiquer, la forêt. Il faut y aller. Il faut s'y intéresser et ne pas l'avoir comme uniquement un cadre de promenade. Il faut s'intéresser à la forêt en tant qu'écosystème, ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Il faut s'intéresser aussi à la forêt, au métier de la forêt, au métier des forestiers. Ça peut paraître surprenant peut-être, mais sachez qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à assurer la génération future de forestiers qui géreront les forêts de demain. Pourquoi ? Peut-être qu'il y a un désamour ou une vision biaisée de ce qu'est le métier de forestier. Et je ne parle pas uniquement des gestionnaires forestiers, je parle aussi de ceux qui façonnent la forêt, les ouvriers sylviculteurs, les bûcherons, les chauffeurs d'abatteuses, de débardeurs, les exploitants forestiers, évidemment. Voilà. Et donc j'en profite pour faire de la retape. Là, hein. S'il y a des vocations de jeunes forestiers parmi l'Assemblée, voilà, il faut les encourager. Et donc, voilà, on a un vrai enjeu par rapport à ça. Et on est présent auprès des scolaires pour donner une vision équilibrée de la forêt aussi, et pas uniquement une vision biaisée qui l'aborde sur un prisme particulier.
Voilà. Je vais vous demander de passer le micro à Jean-Michel, à qui juste votre micro est super, puisque le mot de la fin est la conclusion. Vous qui donnez des conférences comme ça un peu, et vous qui discutez, est-ce que vous êtes plutôt positif pour l'avenir, ou est-ce que finalement ça craint un peu, mais finalement quel est le retour que vous avez de vos conférences?
Je dirais que je suis assez positif. Enfin, je vois l'avenir de la forêt d'une façon assez positive. Enfin, j'ai pas assez la question.
Non, mais si, bah moi j'aime bien votre réponse. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup et bravo à vous pour votre conférence. Merci à toutes et à tous d'être venus. On était bien sur Radio Vartas. Merci beaucoup à Arthur qui était à la technique. Merci beaucoup au PETR, à la commune de Florac. Merci à tous les partenaires et mécènes privés. Et oui, il y a aussi du privé dans la forêt. C'est comme ça. Merci beaucoup à tous les six d'avoir été là. Je remercie particulièrement, merci beaucoup Virginie et Margot pour l'organisation. Chers forestiers. Et de vous conseiller leur excellente émission qui s'appelle Palabre en forêt sur radiovartas.net. Merci beaucoup. Demain, c'est à partir de 9h30 à Bar des Cévennes que ça se passe. Vous avez rendez-vous à Bar pour la suite de la fête de la forêt. Des petites balades sous la pluie vous attendent. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Elle est là. Ça va être bien. En attendant, un joli repas, un petit buffet forestier nous attend. Merci à toutes et tous de nous suivre. On était bien sur Radio Vartas sur cette FM. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.
Et voilà, c'était le lancement de la fête de la forêt enregistrée au château de Florac le 12 mai dernier, disponible sur notre site internet radiobartas.net à l'émission Palabre en forêt. Passez une excellente journée sur Bartas, restez-y, on n'y est pas trop mal. À bientôt, ciao.
Palabre
en forêt.
L'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts cévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Vartas
107 FM. Latitude 500, longitude 35.